chacun se présente de façon un peu courte, pour que ça ne nous prenne pas trop de temps, parce qu'on a démarré en retard, et puis en même temps que chacune et chacun puisse dire d'une certaine façon qu'est-ce qui l'intéresse sur ce thème-là, quelles sont les questions les plus vives qui traînent avec lui, et du coup, d'une certaine façon, ça permettra aux uns aux autres de répondre, mais bon, dans du lien. Hein, pas simplement de la théorie ou de la réflexion. Alors, juste encore un petit mot. J'avais amené là ce que vous avez vu, excusez-moi, ce que vous avez vu tout à l'heure, qu'on ne voit plus. C'était un arbre, mais je vous expliquerai après pourquoi, parce que je suis une fondue des arbres. Et les arbres, c'est un système de cartographie qui permet de mettre en visibilité, mais qui permet aussi à chacun, à chaque acteur qui est dans l'arbre, d'avoir autant que les autres à répondre. Bon. Très, voilà, j'en dirai plus si ça revient sur le tapis. Donc, je passe, il y a un micro baladeur. Joël, tu veux démarrer quelque chose Voilà, démarre quelque chose.
Mais je pense que Esther a raison, on va essayer de faire un petit tour de qui est présent à cet atelier. Pour ma part, donc je m'appelle Joëlle Palmieri, je représente ici un nouveau-né qui s'appelle mesialter.org, qui est censé, plus que censé, être un outil d'information et de communication des résistances, mouvements et alternatives. Il est né par la force de plusieurs volontés, des volontés collectives de mouvements comme le CRI, le 4D et un certain nombre d'associations, de titres de journaux comme Territoire ou Témoignages chrétiens, et d'individus, quoi, de personnes isolées, mais plutôt journalistes, et surtout d'anciennes salariés de la presse, l'Agence pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, qui avait créé Mediasol.org, qui tous les deux, après ces Mediasol.org, sont morts définitivement le 24 mai dernier. Donc je fais partie de ces anciens salariés de la presse et de celles qui ont créé Mediasol.org. Je suis par ailleurs présidente des Pénélope, qui est une agence féministe d'information. Voilà, donc comme l'a dit Esther, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on ait plutôt un échange sur nos pratiques de communication, si nous en avons, ou des questions sur quelles pourraient bien être nos pratiques de communication, sachant que nous, on a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc,
donc Cécile Campola,
c'est bon.
Comme ça. On m'entend ? Donc Cécile Campola, j'assure la coordination de Résol. Résol qui est un réseau qui regroupe des structures d'expertise et qui se pose la question d'expertise indépendante, citoyenne, solidaire, en particulier pour les structures d'économie sociale et solidaire, mais plus largement pour tous les acteurs de la vie sociale, locale, associative, etc. Moi, je me pose des questions en termes de communication, communication interne, communication externe, par nature, dans un réseau. Voilà, j'espère qu'on pourra réfléchir à tout ça.
Bonjour, Odile Thomas. Moi, je suis une habitante d'un quartier de Paris. Donc, je ne suis pas du tout là en tant qu'acteur de la... de l'économie solidaire, mais il se passe des choses dans mon quartier et je viens un petit peu en observation parce que je préférerais que ce qui va se passer, ce qui va s'installer dans mon quartier puisse être en accord avec ce genre de principe et connaître les associations qui peuvent un peu nous aider à retrouver un cadre de vie agréable et une vraie vie dans le quartier.
Jacques Devater. Oui, oui, ça va. Bon, je suis là en tant que représentant de l'ASFODEV, qui est une association pour la formation en développement humain et qui intervient surtout en Afrique, pour aider des femmes qui sont déjà des formatrices et un peu des leaders à se confirmer dans leur rôle et dans leur leadership, on peut dire, économique et social. Voilà. À ce titre-là, je représente Asfodev au CRID dans la commission économie solidaire. C'est pour ça que je suis ici. En plus, je suis voisin. Alors, j'habite à 300 mètres d'ici. Bon.
Bonjour, je suis Eliane Rimoux, je suis responsable marketing communication dans un secteur marchand qui est consulting informatique, en consulting informatique, et je suis bénévole pour un projet qui s'appelle MASC, qui est la mutuelle des arts, des sciences, du social et de la culture. Voilà, et je souhaite simplement rencontrer un maximum de personnes et avoir des échanges sur la culture et la communication, savoir les pratiques des uns et des autres. Merci. Bonjour, je suis Carole Contin et je fais partie bénévolement également de la MASC, comme Eliane. Et je suis, moi, cinéaste affilié au mouvement alternatif, mouvement de cinéma expérimentaux, on va dire. Et je me pose pas mal de questions par rapport justement à la communication dans ce domaine-là, parce que j'ai souvent envie de soutenir pas mal de jeunes cinéastes, etc. Et en même temps, comme il n'y a pas d'économie viable, j'ai tellement d'activités bénévoles, c'est compliqué d'en faire une autre. Et puis je tiens à entendre aussi ce qui se fait ici, par tous les acteurs qui sont là, voilà. Curiosité.
Bonjour, Jean-Marc Neuville. Oui, moi j'habite rue Jean-Pierre Timbaud aussi. Sinon, je suis coopérateur à la SCIC Cadronne qui est dans l'Aude. Je suis journaliste et j'essaye de réfléchir, surtout depuis que Mediasol n'existe plus, à un système d'information ou un centre de ressources documentaires. Donc voilà pourquoi je suis là.
Catherine Delomeau, je suis conseillère municipale minoritaire à Montreuil et on a tenté de mettre en réseau toutes les associations d'économie solidaire à Montreuil et donc je suis intéressée par rapport au problème de communication puisque ça a été quand même plus ou moins un échec, c'est-à-dire que chacun est resté dans son coin. Je pense que les réseaux sont très importants dans le domaine de l'économie solidaire.
Bonjour, je m'appelle Claire Verdier, je me suis inscrite dans celui-ci plutôt qu'un autre parce que je suis actuellement dans une phase de début de communication autour d'un projet que je porte depuis plusieurs années. Je suis moi-même habitante dans le 13e arrondissement et je porte un projet de jardin partagé que maintenant la municipalité, enfin la mairie d'arrondissement et bien sûr la ville de Paris porte, et donc autour de cela, il va falloir animer et communiquer.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Lessalle, donc j'habite Paris et je suis salarié de l'Association universitaire de coopération internationale qui est une association à Nanterre. Je suis salarié dans une association universitaire de coopération internationale à Nanterre. Et donc nous sommes très impliqués dans le développement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires des Hauts-de-Seine, mais aussi comme on est sur une plateforme universitaire avec des étudiants qui viennent un peu de toute la région Île-de-France, donc on s'étend un peu au-delà des Hauts-de-Seine. Et donc à côté du développement local, on est aussi très impliqués dans les échanges et la coopération co-développement international, et donc par rapport à ça, c'était aussi par curiosité que je venais sur cet atelier pour rencontrer les acteurs. Voilà. Une problématique pour nous, en fait, on est une structure d'accompagnement de porteurs de projets, donc avant tout. C'est-à-dire qu'on aide des personnes à monter leur projet. Et notre public, ça va des étudiants, des jeunes des cités autour de Nanterre, ainsi que, en fait, on élargit le plus possible, on est ouvert à toutes les populations porteuses de projets. Et bien souvent, comment dire, ça peut être des projets donc de migrants, de projets de personnes qui veulent monter une aide humanitaire ponctuelle dans des pays en difficulté, comme les pays africains, Asie ou autres. Et donc, c'est souvent l'occasion aussi d'échanges culturels. Et il y a beaucoup, en fait, il y a un désir profond de s'inscrire dans cet échange culturel, interculturel. Et donc, par la suite, peut-être, sur le retour en France, dans le retour au niveau du local, pouvoir communiquer cette expérience, c'est, à mon avis, quelque chose d'assez important qui mériterait de trouver des moyens, de trouver des... Voilà la problématique.
Bonjour, je m'appelle Laurence Constantini, je travaille pour Frères des Hommes, qui est une organisation de solidarité internationale qui intervient en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Donc nous, on travaille effectivement dans ces pays-là, on soutient des projets qui seraient peut-être qualifiés ici d'économie solidaire, mais nous, on les qualifie pas de la même façon, mais bon, ça, c'est pas tellement le débat. Mais on fait aussi, on essaie en tout cas de faire de l'éducation au développement et à la solidarité internationale ici. Et c'est vrai que sur ces thématiques d'économie populaire, solidaire, sociale, etc., on a souvent du mal à communiquer auprès de nos propres réseaux de militants, mais aussi vers l'extérieur. Et d'autant plus qu'on essaie quand même de montrer, de mettre en relation ce qui peut se faire ici. Et ce qui se fait dans les pays du Sud, de montrer des dynamiques un peu communes, même s'il y a des différences de contexte. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire le lien et de présenter les choses de façon un peu concrète pour les gens, pour qu'ils puissent, ne pas regarder ça uniquement comme des projets qui sont faits par des populations au Sud, mais voir le lien qu'il peut y avoir en termes de réflexion sur des alternatives économiques, aussi avec des expériences qui se situent ici en France. Donc je pense qu'on a un petit souci là parfois pour arriver à créer du lien entre ces différentes expériences. Donc voilà.
Joël, je sais pas, tu...
On est plus deux. Catherine Estroderet, bonjour. Catherine Estroderet, donc d'une part, je suis salariée d'une association qui s'appelle Association Villette Emploi Jeune, qui est une association intermédiaire qui accompagne des RMistes artistes dans l'économique. Et donc, qui accompagne des RMistes artistes dans les projets professionnels qui déboucheraient sur une viabilité économique. Donc là, c'est une première interrogation pour moi qui est des supports de communication liés à des porteurs de projets individuels et dans un secteur culturel. La deuxième identité professionnelle, c'est d'être dans cette association sur la Villette et donc de jouer l'interface entre les équipements publics culturels et les populations avoisinantes. Et le constat qu'on peut faire, c'est que si les équipements publics maîtrisent assez bien la communication, on peut se questionner par contre sur la volonté d'accessibilité culturelle qui est réelle dans ces équipements. Et donc comment, auprès des populations, travailler à l'émergence de projets qui, lui, touchent à la fois la dimension culturelle, tout en prenant un vecteur de communication accessible au plus grand nombre. C'est à peu près clair.
Oui, bonjour, moi c'est Jean-Claude Diebelt, Réseau Cheminement, qui s'occupe de repérer et analyser des projets innovants et émergents dans 12 régions pour en ressortir des outils de mise en relation entre acteurs et entre acteurs et décideurs. On a un stand là, plutôt vous inviter à passer. Il y a une présentation là à prendre après. On a une enquête sur les structures qui existent pour essayer de les mettre dans des bases de données. On a déjà une base de données de plusieurs milliers, de dizaines de milliers même de références. Et donc on essaye de traiter pour que ce soit utilisable et pas un annuaire en vrac. Voilà. Alors on fait beaucoup d'analyses aussi. J'ai un petit test aussi, en ayant mis 100 réseaux d'économie solidaire, de chercher à savoir lesquels vous connaissez ou vous ne connaissez pas, pour voir comment ça se regroupe justement entre horizons différents, pour voir qui connaît qui, s'il y a des affinités qui font qu'on se connaît dans une mouvance et qu'on connaît mal une autre mouvance, avec la famille plurielle qu'il y a. Moi je me retrouve beaucoup dans les articulations entre économie et culture, dans les difficultés de communication avec les habitants, les acteurs et le rôle des réseaux comme outil de communication à développer. J'ai un petit topo, j'avais fait un résumé d'un résumé. J'ai un petit topo qui illustre aussi toutes les analyses qu'on essaye de faire le plus fines possible pour pouvoir être le plus efficace en mise en médiation. Alors il y a toute une série de questions sur la culture, les cultures ou les communications et les économies plurielles, du genre le tiers secteur audiovisuel, le web solidaire ou le web citoyen, la question d'une culture scientifique, parce qu'on dit culture comme étant artistique, alors qu'il y a une culture scientifique qui est un énorme enjeu citoyen dans sa diffusion. La question des contre-pouvoirs, des lieux de diffusion comme les universités rurales, populaires, etc. La question des lieux comme des cafés, les friches, les espaces intermédiaires, comme on dit. Vous verrez, il y a une trentaine de sujets qu'on étudie, nous, avec des milliers de projets derrière, à partir de milliers de projets. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir une enquête sur les vôtres, pour affiner au maximum les questions et les possibilités de réponse. Voilà, je voudrais pas être plus long. Il y a vraiment beaucoup. C'est très riche ces questions de culture et communication, contrairement à ce qu'on peut penser. Et comme sur les économies là-dedans, il y a une question de pluralité, c'est-à-dire qu'entre le lucratif mercantile et entre l'étatisé qui est un peu rigide ou largement rigide, il y a un énorme espace qui est flou, vide et qui doit faire partie de l'économique, alors que pour l'instant il n'est pas comptabilisé en économie. Et donc toutes les questions de les circuits courts de distribution, les maisons d'édition solidaires, les maisons de production, etc. Tout ça, ça doit faire partie de sujets sur les rapports entre culture, communication et économie. On va laisser
parle une seule fois, après tout le monde est privé.
Bonjour. Donc, je suis Christophe Rigdre et je suis là au titre de la coopérative Cohérence. Enfin, il s'agit d'une société coopérative d'intérêt collectif, toute récente, qui s'appelle donc Cohérence et qui est une coopérative de diffusion et distribution qui regroupe un certain nombre de maisons de production de films, des revues et des éditeurs indépendants. Et l'enjeu est de développer... Et l'enjeu est de développer, en fin de compte, des modes de circulation qui puissent correspondre à un moment donné à l'exigence qui est à la fois de l'ordre politique mais aussi culturel, qui anime un certain nombre de démarches et qui sont mises à mal tant par les logiques de concentration économique dans le secteur des industries culturelles. On témoigne par exemple le monopole, notamment dans l'édition, puisqu'il y a aussi des choses qui concernent l'image de Lagardère, aujourd'hui, qui détient par exemple 95% des dictionnaires et des encyclopédies, 80% de l'édition scolaire, et puis 70% de la distribution du livre, etc., etc. Et la nature même du propriétaire étant un marchand d'armes, on peut s'interroger aussi sur le peu de réaction, en fin de compte, face à de telles constitutions, quoi. Donc cohérence, c'est à la fois un objet qui est relativement nouveau puisqu'il met en prise des éditeurs, des maisons de production de films, des revues, etc. Aux réalités qui sont pour l'instant qui sont relativement peu définies de l'organisation juridique en termes d'économie sociale plutôt solidaire là pour le coup. Il y a aussi un autre aspect qui je pense est important et un peu décisif dans la constitution des choses, c'est-à-dire le fait de soutenir l'existence de tout un tas de lieux de diffusion indépendants, je pense notamment aux librairies indépendantes qui sont mises à mal aussi par la guerre commerciale qui leur est livrée par les grandes enseignes type, on va lâcher des noms, Fnac, Virgin et autres Extrapol. Je pense également aux salles, aux salles art et essai qui sont appelées à disparaître les unes et les autres face à la politique des multiplexes. Bon, et on pourrait comme ça, pour secteur par secteur, aussi, en fin de compte, pointer du doigt tous ces phénomènes de concentration économique, toutes ces logiques de marchandes et strictement marchandes qui mettent à mal et mettent en danger de manière très concrète, visible et immédiate tout un tas de démarches culturelles qui n'ont pas vocation à s'inscrire dans l'économie de marché telle qu'elle est. Donc voilà ce pourquoi c'est constitué cohérent, c'est pour dynamiser un certain nombre de liens qui n'existent pas ou peu entre différents acteurs, donc des producteurs de sens, mais aussi des diffuseurs de sens, et aussi évidemment ce qui est de l'ordre, ce qui est le plus important en fin de compte, c'est le lecteur, l'auditeur, les spectateurs, etc. Donc voilà, voilà la constitution de l'objet. Alors après, c'est un certain nombre de difficultés dans la constitution même de ces choses-là, parce qu'elles sont fragiles et que le contexte aussi, parce que ce qui est assez surprenant, je trouve que bon, j'ai pas assisté à la totalité de la journée, etc. Certes, mais là même dans les présentations, il y a un contexte politique qui est assez bon, qui fait pas de doute quoi quant aux intentions qui animent certains, etc. Et qu'il y a des pratiques de solidarité qui sont quand même largement distendues, et même dans un secteur comme l'économie sociale et solidaire, longtemps a présenté comme pouvant être une alternative, etc., les liens sont quand même largement, enfin, peu ou pas développés. Je trouve que l'exemple de Mediasol serait peut-être intéressant d'en parler, etc., qui était un outil, somme toute, assez utile. Le fait qu'il disparaisse comme ça, dans le silence et l'indifférence la plus absolue, et qu'il était accompagné au départ de gens qui, je pense, auraient tout à fait pu soutenir, en fin de compte, son développement, et puis surtout l'existence d'un outil comme celui-ci. Donc, ce que je trouverais peut-être intéressant en termes de discussion ici, on n'est pas très nombreux, etc., mais c'est essayer de comprendre, essayer de voir de quelle manière on peut peut-être essayer de redynamiser un certain nombre de choses, et notamment de pratiques de solidarité qui me sembleraient être bienvenues, eu égard au contexte actuel, quoi, d'une part, et puis également, tout simplement parce qu'il y va de la survie et de l'existence aussi des démarches des uns et des autres, et qu'à un moment donné, par exemple, et je terminerai là-dessus, pour pas être trop long, lorsqu'on constitue un objet comme cohérence, ce qu'on essaye aussi, c'est de décontaminer à un moment donné les imaginaires et les comportements et les postures de cette espèce d'idéologie qui s'est insidieusement glissée un peu partout, de la compétitivité ou de la compétition ou de la concurrence, qui voudrait que ma survie passe par l'écrasement de l'autre, etc. Donc, si on parle par exemple de culture, il y a aussi, je pense, à un moment donné, à s'interroger sur ces espèces de réflexes, ces conditionnements culturels qui font que des pratiques qui sembleraient être évidentes et même vitales sont en fin de compte peu développées ou pas développées, et en tout cas pas à l'ordre du jour, il me semble, des différentes assemblées, etc. Bon, voilà.
Bonjour, David Lelois, Hightech, Association internationale de techniciens, experts et chercheurs, mais je suis ici pour représenter le CRID, Centre de recherche et d'information pour le développement, et je vous parlerai tout à l'heure de l'expérience que nous avons eue avec Mediasol à Porto Alegre.
Oui, moi je voulais juste te reprendre, je te suis complètement parce que. C'est effectivement quelque chose que je pense, et c'est comme ça que j'aurais aimé entamer entamer le débat. C'est que bien que nous soyons d'une certaine façon, nous nous pensions dans une sorte de sous-univers qui prône
une certaine culture, qui prône une certaine économie, qui prône normalement une certaine façon d'être ensemble. Ce qu'on voit au fil des années, c'est que la culture dominante, les discours dominants, les mots qui sont travaillés par les communicants, justement, puisqu'on parle de communication, les communicants, et puis en plus, depuis un bout de temps, là, on entend bien comment quelqu'un intervient, comment il pose son discours, quels mots il utilise, quel rythme il prend, quelle attitude, je ne vise personne. Bon, et que nous, d'une certaine façon, nous reprenions ces mots-là sans les secouer, sans essayer de penser comment, en les reprenant tels quels, on embarque avec soi une sorte de piège, pour ne pas dire de bombe à retardement. Bon, c'est vrai que il me semble, par exemple, justement, quand on parle de communication, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit, comme j'ai entendu tout à l'heure, communiquer. Bon, je dis pas que j'ai raison, hein. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être très bien de vouloir communiquer, c'est peut-être très bien de vouloir faire du marketing quand on est dans l'économie solidaire ou dans l'économie sociale ou dans la création, tout ce que vous voulez. Mais je pense que ça doit être questionné. Et moi, j'ai envie de dire, comme j'ai entendu tout à l'heure, oui, il faut qu'on communique parce qu'on n'est pas connu. Ben, d'une part, si on n'est pas connu et si on n'est pas en lien, je pense que ça relève de symptômes beaucoup plus compliqués. Bon, on n'aurait peut-être pas le temps d'en parler là. Bon, mais en attendant, sans aller jusque-là, qu'est-ce que ça vient faire entendre? Ça vient faire entendre, quand je dis ça, ça veut dire, bon, ben, j'ai envie de faire connaître. Ben, faire connaître, c'est pas obligatoirement se dire qu'il faut que je communique. Faire connaître, ça peut vouloir dire s'exprimer, ça peut vouloir dire créer quelque chose avec d'autres gens, ça peut vouloir dire faire un événement. Mais, si vous voulez, derrière le terme communiquer, il faut voir faire savoir, hein, par exemple. Est-ce que communiquer, c'est faire savoir? C'est pas obligatoirement la même chose. Vous savez, communiquer... quelque part dans le monde de l'ensemble du monde animalier dont nous faisons partie, normalement communiquer, c'est une dimension qui est le message direct reconnu par l'autre, donc comme par exemple chez les insectes, les phéromones. On dit que les insectes communiquent entre eux grâce aux phéromones. Bon, je pense que quand on veut construire, échanger, produire en même temps du développement et en même temps de la culture, on a à notre disposition largement plus de potentiel, en tout cas au niveau de la pensée, que de s'enfermer dans l'histoire de la communication. Et Joël, par exemple, il va prendre certainement la parole après moi, parce que quand je lui ai dit ça, elle n'était pas d'accord. Mais pour moi, justement, le travail qui a été fait avec Mediasol, c'est pas de la communication, c'est vraiment de la mise en lien, c'est de la mise en visibilité. Mettre en visibilité, ça ne veut pas dire bêtement communiquer. Mettre en visibilité, ça suppose une démarche, ça suppose des backgrounds qui sont différents. C'est-à-dire...
Oui, je voudrais répondre parce que j'ai l'impression que c'était une réponse aux deux mots que j'ai dit. Moi, dans communiquer, il y a comme, et comme vous partez sur des sphères un petit peu de réflexion générale, comme, ça vient du latin, cum, et ça veut dire être avec. Donc moi, ça fait 4 ans que je travaille sur un projet pour lui faire prendre racine, pour pas emmener des habitants dans une illusion. Et quand je dis que je veux communiquer, c'est communiquer pour interpeller des acteurs un peu plus lointains que malheureusement j'ai pas pu interpeller au nom de ce projet. Et ça ne veut pas dire communiquer comme vous êtes en train de le dire. Voilà, comme j'avais deux mots, j'ai dit deux mots, mais je voulais rectifier. Voilà.
Je veux bien rajouter un mot aussi.
Enfin, je ne connais pas trop bien l'expérience de Mediasol et aussi des intervenants qui sont là. J'ai simplement entendu parler de cohérence et moi je trouve que cette initiative m'intéresse beaucoup. Je crois que dans ce que je retiens de ce qui a été dit sur Mediasol, qui est un travail de mise en relation, de synergie entre différents acteurs. Donc moi ça c'est une opinion personnelle que j'amène, c'est-à-dire que pour moi l'université c'est aussi un lieu de lutte, c'est un lieu important dans la société et je crois que l'université aurait intérêt à s'ouvrir sur la société civile et de pouvoir justement dans une zone géographique qui est à peu près régional, de pouvoir dynamiser ces initiatives qui sont isolées les unes aux autres et pouvoir faire une jonction au niveau de l'international, au niveau du national, au niveau du régional, entre ces différents partenaires, entre ces différents structures. Et donc moi, toute ma problématique, elle est là, c'est que donc comme je suis salarié dans cette association universitaire, nous on essaie de mettre en place des structures d'accompagnement de porteurs de projets de tout ordre. Et effectivement, il y a derrière ça aussi une dimension sur la culture, sur la communication, sur ce que le monde est fait aujourd'hui, quoi, en tant que modernité, en tant que nouveaux outils de communication, quoi. Donc, à mon sens, c'est assez important que l'université réponde présent à ce genre d'enjeux et que l'université soit pas écartée non plus par ces acteurs et qui viennent travailler avec nous.
Je vais intervenir, évidemment j'ai à peu près 12 milliards de choses à raconter. Je vais essayer de m'en tenir à une dizaine. Je suis assez d'accord avec Christopher sur la contamination. Y compris évidemment ici, dans cette salle. Je pense que je vais démarrer par ça. C'est-à-dire que tous et toutes, effectivement, quand vous avez commencé à parler de vos projets et des enjeux de communication, quand vous dites communication, en fait, derrière, il y a une seule signification, c'est unique, unilatérale, uniforme. C'est une communication qui est la communication libérale. Là où je ne suis pas d'accord avec Esther, c'est qu'il y a, à mon avis, plusieurs types de communication, comme il y a plusieurs marchés, comme il y a plusieurs cultures, comme il y a plusieurs plein de choses, que tout se conjugue au pluriel et au féminin, contrairement à tout ce qui nourrit et vertèbre le système capitaliste. C'est aussi un mot dont on n'a absolument pas entendu parler aujourd'hui, alors qu'on est venu parler d'économie solidaire, on ne s'est pas posé la question de remettre en cause le capitalisme. Moi, je pense que la communication qu'on a à mettre en œuvre pour une économie solidaire, c'est-à-dire une économie au service des populations, c'est une communication populaire. Cette communication populaire se traduit par des choses très concrètes qui sont effectivement de la mise en lien, de la mise en réseau, de la mise en tout ce que tu veux. C'est ce qu'on a fait à Mediasol, c'est ce qu'on essaye de continuer à faire dans Mediater. C'est très concret aussi à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que quand je parle de uniforme, uni, quelque chose, tout est uni, c'est vrai, ça c'est le capitalisme. Nous, notre forme, notre vision de la communication populaire, c'est multiple. C'est de la multitude, c'est de la diversité, c'est de la variété, c'est de rendre compte de, y compris de désaccords, parce que ça fait débat. Et que le débat, ça nourrit la démocratie. Et que ce que nous impose le capitalisme, et avec ce que tu dis sur Lagardère, c'est assez flagrant, c'est pas seulement la pensée unique, c'est une façon de penser qui est unique. C'est ça qu'il faut travailler. Donc quand moi je parle de communication, je parle très très clairement de quelque chose qui dépasse les questions d'information, parce qu'il y a l'information, c'est le droit d'être informé, comme le droit d'informer, mais c'est aussi effectivement toute la question de la diffusion, c'est l'accès à cette information et le fait de pouvoir la diffuser, mais c'est plein de choses, c'est Pour moi, par exemple, l'information n'est pas une affaire de spécialiste. C'est pas une affaire que de journaliste. Évidemment, il y a des professionnels de l'information qui savent faire, et on en est, il y en a qui savent faire, mais que ces journalistes peuvent travailler aux côtés des mouvements, des acteurs, pour construire une information qui est au service de tout le monde. L'information, c'est un bien commun pour moi. C'est pas quelque chose qu'on peut privatiser. C'est ce qui est en train de se préparer au sommet mondial de l'information en décembre de cette année, là, à Genève. Il y a vraiment un enjeu majeur. Les mouvements ne s'en emparent pas du tout parce qu'ils pensent effectivement communication au sens libéral. Et ils pensent l'information au sens libéral. Donc si effectivement on se calque avec cette grille de lecture-là, on ne peut pas comprendre les enjeux de ce sommet de l'information. Par contre, si on retourne, c'est pas forcément évident ce que je raconte, mais si on retourne cette grille de lecture, c'est-à-dire si on se dit c'est un bien commun, c'est un enjeu majeur, parce que demain, ni par le net, ni par les CD audio, ou par je sais pas quoi, par les livres, ni par la télé, on peut faire de la télé. On peut en faire, c'est à nous, c'est de la technique. Après, ça demande des moyens. Mais on peut faire de la télé. Nous, au Pénélope, on en a fait pendant 2 ans, avec 0 franc. C'est des histoires d'accord avec des gens à un moment donné à qui ça convient d'amener de la technique quand nous, on amène des contenus. Il faut trouver des systèmes plutôt, effectivement, horizontaux et transversaux plutôt que complètement verticaux et linéaires. Je parle souvent aussi de circulation, c'est-à-dire de vision circulaire. Ça n'a rien à voir avec la vision pyramidale du capitalisme, alors que le circulaire, en plus, c'est par ailleurs, on m'a dit, très féminin, mais j'insiste, ça permet, c'est sans fin, quoi. Le circulaire, ça permet que ça transite, en fait, que ça se transmette et que ça se diffuse en continu. Il n'y a pas d'arrêt possible, on n'est pas obligé d'aller de là jusque là ou de faire une grimpette énorme. Donc, le circulaire, c'est plutôt à plat, ça peut même, alors après on peut élaborer, je sais pas comment ça s'appelle, les formes circulaires multiples, je sais pas quoi, donc là ça croise les réseaux, mais c'est tout ce qu'on essaye de faire, c'est tout ce qu'on a essayé de faire dans Mediasol, c'est tout ce qu'on essaye de continuer à faire à Medialter, c'est-à-dire mettre en commun des objectifs de visibilité, effectivement, des mouvements et des valeurs qu'ils portent ou des actions qu'ils mènent, et l'information de la population qui est très loin, vraiment extrêmement loin de ce qu'on est en train de dire ici, et qui surtout n'a pas la parole. Moi, ce matin, à un des ateliers où j'étais, qui était l'atelier sur les projets portés par les femmes, la communication était un des enjeux majeurs. Pourquoi ? Alors ça, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps. Par définition, et ça, personne, peu de gens le voient, par définition, les femmes sont invisibilisées dans cette société, dans la nôtre, qui est toujours capitaliste et en plus patriarcale pour le coup. Donc la seule façon pour les femmes, et en particulier les femmes actrices de l'économie solidaire, d'être visibles, et pas être visibles pour être visibles, pour avoir sa photo dans je sais pas quoi, dans un journal, pour être visibles, pour mieux être en réseau, pour mieux échanger, partager des savoir-faire, des compétences, des expériences, des expérimentations. Cette visibilité, c'est une lutte. Nous, on vient de là. Et c'est pour ça qu'on a créé ces médias et ces formes de communication populaire. Après, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a évidemment beaucoup d'homologues, plus au sud qu'au nord, je dois bien le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on était à Porto Alegre, on rencontre des synergies, on va appeler comme ça, ou des points de vue communs, beaucoup avec l'Amérique latine, qui a une histoire particulière, mais aussi avec l'Afrique, qui n'a presque pas de moyens d'information. Indépendamment, il y a tous les phénomènes de dictature, de contrôle de l'information, etc. Indépendamment de l'information, c'est tous les moyens de communication. Les moyens de communication, c'est l'espace public aussi. C'est là. C'est là où on est en train de communiquer, par exemple, pour moi. Et c'est pas mal. C'est pas péché, quoi, de communiquer aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que plus concrètement, tu peux dire ce qu'on fait. Non, en concret, en très concret.
Non. Ah non, on me dit toujours que je suis lent, mais
Je suis pas le seul. Hein. Je crois que c'est plutôt dense. Je suis pas long, mais je suis trop dense. Oui, si, puisque j'ai à rendre compte, c'est moi j'ai retenu que tu disais information ou communication, et que la communication implique d'avoir un terrain en commun, un terreau en commun. Et moi, la question que je me pose, c'est comment me situer. J'ai du mal à me situer par rapport à Mediasol. Autant je l'utilise, je l'exploite bêtement comme un stock d'informations, autant la circulation des informations, ça peut pas être par Internet, ça ne peut pas être... C'est un stock. Ça, en revanche, c'est dans des lieux réels, avec de la convivialité réelle, avec des échanges, des spectacles, des circuits de distribution, de diffusion. Il y a des multiples lieux qui font que un endroit où on stocke de l'information, c'est pas de la communication, c'est quelque chose de virtuel. On peut y puiser quelque chose, mais on n'est pas déjà en relation.
Très rapidement, d'abord, je vais dire que c'est faux, évidemment, parce que Mediasol a créé beaucoup de liaisons, comme disait Esther. C'est-à-dire que par le biais de cet outil, pour nous, c'est un outil, Mediasol. Hein, c'est effectivement, tu peux dire que c'est un stock d'informations, effectivement. Mais par le biais de ce stock d'informations qui n'existait pas, se sont créés des liens qu'on pouvait même pas attendre. C'est-à-dire, on avait quand même 3500 abonnés en un an. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire que ce qu'on a fait, ça a correspondu à un besoin. Ça n'a pas empêché les rencontres locales, bien au contraire. Et ça, on en a eu le témoignage, parce que je rappelle quand même l'objet de la presse, qui n'était pas que Mediasol. Mediasol était un des outils. La presse, l'Agence pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, c'était aussi réseauter, quoi, aider au réseautage des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et c'était participer ou animer des rencontres. Donc, toi, c'était... Mediasol n'est qu'un outil, quoi.
Ce qui me semble peut-être à reprendre dans cette image de stock par rapport aux informations mises à disposition sur Internet, c'est que effectivement, il y a un lieu où un ensemble d'informations est stocké, alors elle est posée, bon, que ce soit des réunions au Brésil, que ce soit les réunions en Belgique, que ce soit ce qui se passe à Nantes, ou bon. Donc l'information remonte sur un site, mais justement cette information, elle était posée, accessible de façon ouverte à qui voulait se promener dans le site, à qui chercher une information, à qui voulait suivre quelque chose. Donc oui, ou participer, ou répondre dans un forum, ou bon, donc ça c'est une dynamique. C'est une dynamique qui, en soi, toute seule, n'est pas suffisante, mais c'est effectivement un outil porteur de dynamique. Et moi, ce que je trouvais très intéressant là, c'est justement, c'est le côté qui est dans la racine de communiquer, qui est effectivement la mise en commun. Et pour qu'il y ait une réelle mise en commun, il y a effectivement à se trouver des outils pour partager, mais il y a aussi à dépasser tout un ensemble de freins qui sont d'une vivacité extraordinaire dans notre milieu, qui est aussi vivace ailleurs, hein, parce que je pense que une des dimensions qui freine, c'est la peur qui habite chacun, enfin, ou chaque structure, hein. C'est d'accord, alors je me montre, mais pas trop, mais si je dis que est-ce que je vais me poser, est-ce que je vais me retrouver en difficulté par rapport aux autres. Bon, et c'est vrai que là il y a vraiment, je pense, un progrès à faire si on ne veut pas se retrouver tous très très handicapés au niveau des projets structurels, parce que pour tous ceux qui ont l'oreille qui traîne un peu à droite à gauche, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de structures qui sont en ce moment dans des difficultés réelles financières, et que il y a une chape de silence, parce que mon interprétation, c'est qu'effectivement on préfère rester silencieux du style, bon, pour se protéger
qu'est-ce qu'on pourrait dire face à cette difficulté, parce qu'effectivement ça nécessite une petite analyse, ça nécessite une certaine communication, ça nécessite une expression et aussi une interprétation. Bon.
Oui, donc je vais poursuivre un peu dans la ligne de ce qu'a dit Joël juste avant pour revenir sur l'expérience qu'a eu le CRID à Porto Alegre sur la couverture quotidienne avec l'équipe de Mediasol. Donc le CRID, c'est une coordination, un collectif associatif qui rassemble 50 organisations de solidarité internationale qui, alors je précise, je ne suis ni communicant ni expert en économie solidaire. Donc le premier qui demande qu'est-ce qu'il fait là, il attend la fin de l'exposé. Et donc le CRID, donc ça rassemble 50 organisations de solidarité internationale qui, comme toute bonne organisation de solidarité internationale, a une vision très étriquée de la communication et de l'information. Une communication qui souvent se résume à comment valoriser mon communiqué de presse, comment faire passer mes quelques informations dans les grands médias et éventuellement comment informer mon réseau. Le contact avec Porto, avec l'équipe Mediasol et cette expérience que nous avons vécue à Porto Alegre nous a permis à nous d'engager une nouvelle forme de débat sur, ou de commencer à engager une nouvelle forme de débat sur l'information et la communication. Alors, tout part donc du Forum Social Mondial de Porto Alegre. Moi, je vous fais vraiment un témoignage. Hein. Je ne suis pas non plus analyste, je ne suis vraiment pas grand-chose. Tout est né donc autour du Forum Social Mondial. Donc, comme chaque année, le CRID, comme beaucoup d'organisations de solidarité internationale, a décidé de se mobiliser autour de cet événement, qui a rassemblé cette année 100 000 personnes. Donc, il s'est organisé pour préparer des conférences, des séminaires, enfin, bon, tout le routine habituel du milieu associatif. Mais en même temps, c'était de nous voir parmi les organisations disant, mais au niveau de la communication, comment on va communiquer sur ce qu'on y fait? Comment on va rapporter l'information? Comment on va témoigner ici en France de ce qui se passe là-bas? Sur des choses qui n'avaient pas été pensées avant. Et donc, il y avait vraiment une demande, une vraie réflexion sur quelle production d'information. À la fois pour nos publics militants mais aussi pour le grand public au sens large, et comment témoigner de ce que nous on va y faire, parce que c'est pas le tout faire le déplacement, il fallait aussi pouvoir témoigner de ce qu'on pouvait apporter à ce mouvement de même que ce que lui nous apportait. C'est de là qu'est née l'idée de travailler avec Mediasol, qu'on avait déjà rencontré par ailleurs. Donc Mediasol, c'était un portail d'information sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'était la possibilité pour nous, organisation de solidarité internationale, qui ne sommes pas expertes en communication, de travailler avec des professionnels de la communication sur la couverture quotidienne de l'événement pour fournir et faire passer nos idées depuis Porto Alegre. Concrètement et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est très rapidement constitué en ce qu'on va appeler un pôle presse, une équipe de rédaction, qui rassemblait à la fois, et ça c'est une expérience qui est très enrichissante pour nous, des organisations, des organisations du CRID, de retrouver mon organisation, les techs, mais disons comme le Secours catholique, le CCFD, les centres de documentation Ritimo, des journalistes, témoignages chrétiens, transversation sculpture et quelques autres. Donc une équipe plurielle qui s'est rassemblée, qui chaque matin se coordonnait pour définir quel allait être le contenu de la couverture quotidienne. Donc déjà un lieu d'échange, un lieu de rencontre où on pouvait débattre de ce qui nous intéressait de suivre, quelle était l'information qu'on pensait pertinente de transmettre aux lecteurs de Mediasol, etc., etc. Puis chacun partait à la pêche aux informations et se retrouvait le soir pour échanger sur les contenus récoltés en tenant compte de la pluralité des discours portés, de l'espace de débat nécessaire, de donner la parole à des organisations qu'on entendait peu ou pas, enfin bon, tout un travail là-dessus. Ça a été pour l'équipe, associative qui a rejoint le projet Mediasol, ça a été une révélation. Ça, c'était une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme de production d'information qui nous a vraiment amené à réfléchir à notre relation aux médias et à la production d'information. Et on est passé en fait d'une démarche qui au départ était purement comment on va valoriser notre participation, comment techniquement on va témoigner de ce qu'on fait, de ce qui se fait auprès de nos militants. Une démarche un peu plus politique sur quelle est la place de la communication dans nos associations, quelle est la place de la production d'information et comment nous devons la concevoir, comment nous devons réfléchir pour que cette communication, cette production d'information soit non pas un simple vecteur de notre projet politique, mais un élément central de notre projet politique. Donc globalement, nous ce qu'on a retiré, la façon dont on a eu de considérer Mediasol, donc ça va reprendre un peu tout ce qu'avait dit, enfin beaucoup de choses qu'avait dit Joël précédemment, c'est d'abord que ce portail, ce simple outil technique, ce simple site internet, ça a d'abord été pour nous un espace de rencontre, ça a permis la rencontre entre les acteurs non seulement de solidarité internationale, mais ceux-là on les connaît assez bien, donc on n'avait pas forcément besoin du site internet pour le faire, mais ça nous a aussi permis de nous retrouver à travers la communication avec des associations écologistes, avec des associations d'économie solidaire, pour voir un peu ce qu'on avait en commun, ce qu'on avait envie de produire. Ça a aussi été l'occasion de travailler avec des journalistes et de nous sortir un peu de l'image caricaturale qu'on peut avoir parfois du journaliste, plus ou moins à tort ou à raison. Ça a été aussi un espace de production d'une information alternative qui nous a permis de faire passer analyses, propositions, témoignages des acteurs de la société civile auprès d'un public qu'on ne touche pas toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours une propension, qu'on soit acteur de solidarité internationale, acteur de mouvement écologiste, à s'adresser à un public, on va dire, cible, qui est toujours un premier cercle de personnes sensibles à notre discours, et c'est souvent en direction de ce public-là qu'on s'adresse. Donc là, à travers cet outil, puisque c'était un outil porté par diverses structures, organisations, journaux, c'était aussi une façon de faire passer notre discours dans un public plus large. Donc l'intérêt du travail en collectif est encore renforcé. C'était aussi un espace de production d'informations par des journalistes professionnels, mais aussi par des néophytes. Et c'était aussi intéressant pour de nombreux militants non aguerris au travail de journaliste, de pouvoir s'atteler aussi à la production d'informations et d'essayer de rendre compte de ce qu'ils vivaient à un niveau humain, à un niveau militant, à un niveau professionnel pendant tous ces événements. Et ça s'est encore rencontré donc à travers Medialter, on va dire, qui est entre guillemets la suite de Mediasol. On était présent en contre G8, et effectivement on sent une vraie attente de nombreuses personnes, pour le coup on a évité de mettre des étiquettes, de nombreuses personnes de pouvoir témoigner et produire leur propre information, pas la produire pour la produire et la mettre en ligne genre témoignage, coup de gueule, etc., mais la produire dans un contexte, dans un cadre structuré qui permet aussi de la mettre en valeur. Il ne s'agit pas uniquement de rendre compte de ce qu'on a vécu, mais aussi que ce témoignage trouve un écho et une cohérence avec ce qui peut être dit par ailleurs. Ça a permis aussi donc d'ouvrir un débat sur qui produit l'information. Et ça, c'est un débat, à mon avis, qui est très intéressant. Et quelle est la place du journaliste dans cette production d'information? Juste une anecdote. À Annemasse, on a donc reproduit l'expérience de produire de l'information à travers Medialter. Et on s'est heurté de plein fouet aux médias qu'on a qualifié rapidement de traditionnels, officiels, notamment Journal du Dimanche, RTL, France Inter et quelques autres, qui en fait se sont sentis agressés par l'émergence de médias que tout le monde appelle alternatifs. Nous le vivons très bien, notre différence, mais eux nous ont témoigné de vraiment une très forte agression de cette différence, nous disant mais pourquoi vous qualifiez d'alternatif? Nous produisons tous de l'information, nous sommes tous pareils, nous allons tous dans la même direction, pourquoi cette ségrégation? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont répété moult fois, mais nous ne sommes pas des médias traditionnels, nous sommes des médias non alternatifs. C'est-à-dire que maintenant la normalité c'est nous, c'est l'alternative. Et pour les médias traditionnels, ils se réfugient maintenant de non alternatifs. Je pense qu'il y a aussi des cheminements intéressants parmi les médias. Donc sur cette idée d'un espace de production par des néophytes, on va dire, c'est aussi la question de la réappropriation du débat politique, puisque quand on est amené à formaliser son discours pour le diffuser sur un vecteur qu'on va dire Mediasol aujourd'hui, mais qui pourrait en être un autre, c'est aussi une façon de se réapproprier le discours et d'essayer de le faire passer de manière claire. Et donc c'est aussi quelque part renforcer sa propre réflexion, sa propre analyse. Et enfin, parce que je ne vais pas non plus m'éterniser, je pensais faire plus court, Mediasol a aussi été pour nous le lieu où a pu être produit une information diverse, pluraliste et qui a engagé le débat. C'est ce que disait Joël tout à l'heure, en donnant la voix, en donnant la possibilité à des points de vue contradictoires de s'exprimer. Et pour le coup, l'outil internet même s'il n'est pas encore aujourd'hui l'outil le plus développé, c'est un outil qui permet justement cet échange contradictoire, puisqu'il y a une dimension temps réel et possibilité de réaction par le lecteur que ne peut pas donner la presse papier notamment. Donc pour terminer, pour en guise de pseudo-conclusion, donc la participation, cette expérience à Porto Alegre, qui se reproduite donc à Annemasse pour le contre G8, ça a été pour nous la possibilité d'ouvrir un chantier sur la communication et l'information au sein des organisations de solidarité internationale. Pour preuve, le CRID, pour ne citer que cet exemple-là, après Mediasol et après le décès, l'enterrement de Mediasol, a décidé de s'investir davantage dans le projet Médialter. Donc c'est bien qu'il y ait eu un déclic qui s'est produit sur cette question de la production d'informations. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que le temps passe.
Ouais. Moi, j'ai envie de réagir. Enfin, j'ai trois choses qui me sont passées par l'esprit. Sur les systèmes d'information, enfin c'est de l'expérience personnelle, donc ça vaut ce que ça vaut. J'ai pensé à trois idées comme ça. Je reste effectivement dans l'information. Moi je pratique le slam une fois par semaine à Ménilmontant et je trouve que c'est un espace intéressant. Le slam, pour ceux qui connaissent pas, c'est une forme de poésie orale, mais où il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui est ouverte à tout le monde, quoi. Donc voilà un exemple de d'endroit où, à mon avis, il y a de l'information qui circule, très concentrée, bon, avec en plus pas forcément un délire esthétique comme on pourrait croire quand on dit le mot poésie, c'est-à-dire faut pas le voir au sens classique. Ça c'est un point comme ça, une réflexion. Deuxième, bon, on est dans une information marchande, enfin il y a des supports comme, enfin moi je suis lecteur de Politis. Je pense que voilà, je trouve qu'on a un exemple de journal, d'hebdo écrit qui relaie notamment beaucoup d'informations et notamment d'informations sur le réseau en écrit. Moi, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait ça ici, c'est en lisant Politis de la semaine dernière, alors que je suis moi-même bénévole au Métallo, quoi. Donc voilà. Vous aussi. Et alors dernier point, ici se réunit une fois par mois une association qui s'appelle Place Publique. Qui a un site qui est placepublique.org. Et Place Publique, justement, c'est, je me souviens, il y a deux mois, il y avait une conférence de rédaction qui est ouverte au public, au quartier. C'est de produire l'information par des néophytes. Donc effectivement, il y a des journalistes qui sont là, mais parce qu'ils habitent le quartier ou parce qu'ils adhèrent à l'association. Et c'est l'idée de faire une information citoyenne et d'ouvrir la production d'informations, reportages photos, écrits, c'est principalement de l'écrit, via un site, au grand public et aux néophytes, donc aux citoyens, aux gens qui sont là. On a été jusqu'à se dire justement, mais oui, mais si on n'a pas internet, comment est-ce qu'on fait? Bon, moi je me souviens qu'un soir on a débattu en se disant, bah, est-ce qu'on n'est pas capable de, comme on produit des conférences de rédaction sur 2-3 heures dans la salle au-dessus, et bien de faire des réunions d'information où le travail de ce groupe et des groupes néophytes et pros en bénévolat sont capables de présenter oralement, comme on fait au slam, son article, de le lire ou de présenter les photos en diapo, et ensuite derrière avec le public de discuter. Là on est dans une information, on est dans des formes nouvelles, enfin c'était un débat, je vous le livre comme ça, sur lequel nous-mêmes on réfléchissait à Place Publique. Voilà, trois choses, trois petites pierres.
Avoir un mot de ponctuation, parce qu'il paraît qu'on nous demande d'arrêter pour passer à la plénière, tu veux...
Je pense qu'il faut quand même laisser quelques perspectives ou ouvrir quelques pistes. Dans un couloir, là, tout à l'heure, j'ai discuté avec Christelle de Cohérence sur la nécessité de mettre en adéquation ceux qui peuvent produire des contenus, ceux qui peuvent, ça peut être les mêmes, hein, ceux qui peuvent gérer des supports, qu'ils soient papier, électroniques, musicaux, je ne sais, ou filmiques, et ceux qui les diffusent. Sans ces trois éléments-là, c'est-à-dire la production de contenu, la gestion des supports, c'est vraiment une histoire de gestion, et la diffusion, on est mal barré, c'est-à-dire que la communication populaire
ou alternatif, je préfère populaire, n'a pas beaucoup d'avenir par rapport aux géants de la communication libérale. Donc ça, c'est des pistes de travail. On en a discuté. Je pense qu'on a beaucoup de boulot et cohérence à faire, mais il n'y a pas que cohérence. On a discuté aussi au niveau, évidemment, international. C'est-à-dire comment nos pratiques, on peut les confronter, évidemment, avec d'autres. Nous, on n'a rien inventé, pas plus que les autres. Donc, comment on confronte nos pratiques d'un pays à l'autre et comment on les met en commun. Alors, évidemment, il y a au moins deux échéances. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire, hein, mais il y a au moins, moi, j'en vois au moins deux. C'est le Forum social européen à Paris-Saint-Denis, où peut-être qu'on fera quelque chose sur Medialter. Ça dépend de beaucoup de données, dont des données financières. Mais il y aura la volonté politique, ça c'est sûr. Et puis, donc ça, il peut y avoir une production d'informations et déjà une série d'ateliers ou de débats, je sais pas les formes que ça peut prendre sur ça, là, sur inventer une autre forme de circulation d'informations et de gestion de l'espace public. Voilà, ça c'est le Forum social européen. Et puis un rendez-vous qui est beaucoup plus compliqué et qui est déjà très sclérosé, c'est donc le sommet mondial de l'information à Genève en 2003, où les enjeux sont très très grands, puisqu'il y a des gros enjeux sur la propriété intellectuelle et sur les libertés individuelles, que peu de citoyens et de citoyennes sont informés, et encore et chez les mouvements, quoi, dans les mouvements, il y a peu de visibilité des enjeux réels de ce sommet qui, pour la première fois de l'histoire de l'ONU, est tripartite, c'est-à-dire invite le privé, donc le marchand, aux tables de négociation. Et comme par hasard, ce premier sommet qui est tripartite, donc j'ai plus de 50 ans, ça fait 55 ans après la création des Nations Unies, porte sur l'information. Il n'y a vraiment pas de hasard et pas de coïncidence, donc je vous invite à y réfléchir très sérieusement et à rejoindre tous les collectifs qui travaillent là-dessus.
Juste ajouter deux éléments d'information qui me semblent importants par rapport aussi à ce qui est en train de se produire. Il va y avoir le démantèlement de l'EPRA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle l'échange de programmes radiophoniques, qui est un organisme para-institutionnel sur lequel beaucoup de radios associatives aujourd'hui en France vivent, grâce auxquelles beaucoup de radios associatives en France vivent. Voilà. Démantèlement qui a été demandé par un des représentants des radios libres en France vis-à-vis du ministère des Cultures, qui s'appelle Hugues de Vézin, qui est président de la CNRA, Confédération Nationale des Radios Associatives, mais qui est d'abord et avant tout directeur d'une filiale de Lagardère qui s'appelle A2PRL et qui vend des programmes audio aux radios commerciales et aux radios associatives, et ce sont des programmes formatés et essentiellement des programmes sportifs. Des radios libres et des radios associatives en France. Je pense que la décision est irréversible et qu'il y a à penser justement les capacités d'existence autonomes de ces types de médias et que ça ne repose que sur une seule chose, c'est-à-dire ceux qui les écoutent, les auditeurs. D'autre part, aujourd'hui, il y a deux jours, on a appris que la commission paritaire, et encore, ce n'est pas un débat technique, pour toutes les publications associatives, politiques, d'opinion, sociales, mutualistes, etc., va être aboli. Ce qui veut dire, concrètement, la commission paritaire, c'est un des acquis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour le pluralisme et la diversité de la presse, etc. C'est là-dessus qu'arrivent à survivre et à exister à peu près 3000 titres, revues, bulletins syndicaux, titres associatifs, etc. Et disons aussi toute la presse alternative parce qu'elle est à statut associatif. Et la commission paritaire permet d'avoir les tarifs postaux préférentiels et la TVA à 2,1. La fin, comment ? Oui. Et là, c'est en fin de compte, bon, l'arrêt de la commission paritaire, c'est on veut la mort pure et simple de ces espaces de liberté, ces espaces de débat public, etc. Donc ça, par exemple, ce sont deux choses assez immédiatement repérables comme étant les tentatives d'étranglement aussi de ce qu'il reste et de ce qui existe en matière de médias indépendants ou de médias alternatifs, qui a donc à réfléchir, je le disais juste au début, à la façon dont tout ça peut se réorganiser pour se redynamiser et exister face à des offensives qui sont particulièrement violentes, puisque ce n'est rien de moins que la mort de ces espaces-là qu'on veut. Donc c'est l'isolement des uns et des autres, c'est l'extension des régimes de la peur, etc. Donc il faut que j'arrête. Et donc, cela dit, il y a un autre rendez-vous qui n'a pas été évoqué, mais qui me semble être un rendez-vous aussi important, et c'est au moins là, on essaiera de faire partir des choses sur ces deux questions-là à ce moment-là, qui est le rassemblement sur le plateau du Larzac, le 8, 9, 10 août, et qu'il risque d'y avoir donc un certain nombre d'ateliers au moins qui porteront sur ces questions-là de manière assez concrète, puisque ça va être un rassemblement important. Et ça peut préparer d'autres échéances type FSE. Voilà.
Juste vraiment une toute petite note de conclusion pour dire un truc un peu bateau d'une certaine façon, c'est qu'effectivement derrière ces questions de culture et de communication, il y a des architectures et des flux politiques qui sont qui les trament, plutôt que dire qu'ils sont en jeu, qui les trament, et que effectivement à laisser les choses se dévider comme ça en regardant ailleurs, ça risque d'être dur par la suite. Voilà.
Bon, vous savez, une dernière plénière vous attend justement avec des résumés de tous les ateliers. C'est vraiment l'occasion d'entendre un peu aussi un résumé des autres ateliers que vous n'avez pas pu visiter ou vous n'avez pas pu assister. Et on vous propose la reprise bientôt, c'est-à-dire dans 10 minutes, un quart d'heure, ici dans la salle plénière, à 6h30, 6h35.